savoir.
Écoute, Benoît, je te l'annonce en exclusivité aujourd'hui.
Arrêtez les communications à un moment donné, là. À chaque crise internationale.
Antoine Robitaille.
Il y en a un qui m'a écrit, là, qui m'a dit que j'étais nazi.
Antoine a toujours plein de choses à dire et c'est pour ça qu'on l'a.
Philippe Vincent Foisy.
Qui est à subir ces effets-là et subir ces conséquences-là pour nous aussi.
La rencontre.
Offenser qu'on ose poser une question et remettre en question
ces décisions. Écoute, j'en venais
plus. Rien dire. On peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Surtout dans la rencontre.
Robitaille, Foisy.
On ne serait pas dans la situation actuelle si on avait une entreprise qui, elle, prenait toutes ses responsabilités et exigeait d'un propriétaire. Tu ne veux pas aller chercher ta certification? Tu ne peux pas afficher sur le site. Tu ne peux pas louer. Et ça, ça forcerait des gens qui veulent être dans l'illégalité et donc ne pas payer de taxes, mais en plus, plus facilement passer à travers le filet, ça serait non.
Antoine, Philippe Vincent, bonjour.
Bonjour. Ça doit te faire du bien entendre ça, Benoît. Ça
ben, c'est drôle. Elle parle pas de sécurité, là. Là, il y a 7 personnes qui sont mortes, mais elle parle de payer des taxes, mais on parle pas de la sécurité, là, de l'intégrité des bâtiments avec des sorties de secours, avec tout ça, là. Et elle remet sa responsabilité sur le dos d'Airbnb, Philippe Vincent.
Ben, Airbnb a une part de responsabilité.
Ben oui, certain.
Mais si on la force pas à se responsabiliser, elle se responsabilisera pas. C'est comme ça avec Uber, c'est comme ça avec toutes les plateformes. Les États où Airbnb s'est responsabilisé, c'est ceux où les États ont fait, ben, vous voulez pas le faire, on va vous donner une amende par jour, par personne, par logement, puis c'est tout, puis tant pis. Et puis, qu'est-ce qu'a fait Airbnb? Ben, elles se sont pliées à la loi, puis à la réglementation, et elles ont commencé, je veux dire, à accepter les règlements, ce qu'on ne fait pas au Québec, ce qu'on a décidé de pas faire. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect, un, dans l'illégalité d'avoir cette location de Airbnb, point. Le fait qu'on n'a pas d'inspecteur, qu'on ait rien du côté de la Ville de Montréal pour appliquer le règlement de la Ville de Montréal, puis qu'on envoie ça dans la Cour des provinces. Puis deux, ben, comme c'est illégal, on n'est pas capable de faire un suivi de sécurité. Comment ça se fait, là, qu'on savait pas que les détecteurs de fumée fonctionnaient pas? Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'inspecteurs en bâtiment qui sont pas capables de faire, ouais, ça c'est illégal, vous avez pas le droit, et c'est fini, et c'est fermé, parce qu'il faut protéger les gens? Et à un moment donné, ça peut pas être la faute à personne, puis ça peut pas être la faute à Airbnb. Airbnb a une part de responsabilité, mais la ville et ses inspecteurs en ont une, avec le service des incendies, notamment. C'est pas des pompiers, mais c'est des gens du service incendie qui vont faire ces inspections-là. Mais pour le faire, encore faut-il savoir qu'il y a ces Airbnb.
Mais le propriétaire,
a son rôle aussi à jouer,
le propriétaire, la responsabilité du propriétaire qui loue des chambres et des logements sans sécurité.
Ben, l'enquête est mieux d'être faite au complet. C'est tout ce qu'on va dire là-dessus. Là, mais,
Antoine?
Ben, le code du bâtiment, comme on l'appelait avant, maintenant on appelle ça les normes. Donc les normes, tu sais, ça fait en sorte que souvent on brise des édifices patrimoniaux et ce que je veux dire, c'est que c'est appliqué souvent à la lettre dans bien des cas. Et je comprends pas pourquoi il y a tant de bâtiments comme ça, surtout quand c'est Airbnb que ça échappe.
Airbnb. Oui. Les gens disent R.
Airbnb, mais c'est de l'air. C'est vrai, j'avais...
Mais tu comprends ce que je veux dire?
Oui,
on est tellement soumis à des visites, des permis obligatoires. T'sais, dès qu'on change quelque chose sur nos maisons, l'argument des normes, c'est toujours... ça passe devant. Moi, j'ai vu des édifices, comme je dis, patrimoniaux, être complètement saccagés parce qu'on a voulu absolument mettre les normes. C'était pas des... C'est-à-dire les mettre aux normes. C'était pas des bâtiments publics, là. C'était privé.
Non, mais
comment ça que pour la sécurité... D'ailleurs, les normes, là, c'est maintenant le bâtiment du Code de la sécurité. C'est là-dedans que c'est le chapitre bâtiment du Code de la sécurité. Et comment ça que ça a pas été, que ça a échappé? C'est ça que je me pose comme question.
Mais comment ça fait que Radio-Canada, puis la presse, puis nous autres, on sort des chiffres, on sort des données, on donne le nombre de logements dans le Vieux-Montréal et que la ville de Montréal est assise sur ses mains et sait pas gérer ça, puis blâme Québec
Québec a une part de responsabilité. Faut quand même, tu sais, la ville de Montréal a un gros problème, puis je pense que le gros problème de personne situation qui est en train de se dessiner pour Valérie Plante, c'est qu'il faut attendre que le monde meure pour qu'elle agisse. Parce que de plus en plus, là, pour la sécurité routière, ça a pris la mort de la petite Maria dans le secteur Ville-Marie. Là, on a ça qui vient de se passer et là, finalement, on ramène puis on met de la pression. Violence armée, même affaire. Fait qu'à un moment donné, oui, la ville a une part de responsabilité de peut-être parler plus fort, de peut-être mieux communiquer, d'agir davantage, mais Québec a une part de responsabilité aussi et ce gouvernement-là, faut quand même l'admettre, ne s'est pas préoccupé beaucoup de Montréal et quand la mairesse parle, on l'écoute peu parce que dans l'électorat de la CAQ, c'est pas important. Fait qu'il y a aussi Québec là-dedans qu'il faut mettre dans la balance et au banc des accusés parce que oui, la ville a une part de responsabilité,
Valérie. Toronto et Vancouver, là, il n'y a aucun Airbnb qui est annoncé s'il n'y a pas un numéro de certification. Zéro.
Parce que l'Ontario a agi.
Ben, parce que la ville
parce
aussi
a agi. Parce que la Colombie-Britannique a agi. Ben, nous aussi, on a agi. Le numéro de certification, c'est pas la ville qui le donne, c'est le gouvernement du Québec.
Non, mais il n'y en a pas.
C'est un gouvernement.
Oui, mais
justement.
La ville peut aller sur le site d'Airbnb et voir c'est quoi les numéros de porte qui sont en location, puis de voir est-ce qu'il y a un numéro de localisation.
Non, mais c'est ça que je te dis. Ça, c'est la responsabilité de la ville. La ville a une part de responsabilité. Je veux pas déresponsabiliser la ville, au contraire. Mm. Mais c'est une garde partagée. Puis dans le problème de la garde partagée ici, c'est que c'est la garde de personne, parce que personne ne veut prendre la responsabilité.
Ouais. Mm. Bon, allons à Québec. Il y a ce porte-parole, co-porte-parole du Parti québécois là, qui est dans le trouble. Antoine?
Oui, Stéphane Fauguin, qui est pas un élu, évidemment. C'est un fonctionnaire actuellement au ministère de l'Économie et de l'Énergie et conseiller en développement industriel pour le secteur aérospatial. Il est au ministère de Pierre Fitzgibbon, donc ministère de l'Économie et de l'Énergie, comme je l'ai dit. Et là, il a été suspendu. C'est le Parti québécois qui l'a confirmé, ça. Et on n'arrive pas à avoir des réponses. J'ai parlé à Geneviève Lajoie tout à l'heure du bureau parlementaire, ni du ministère, ni du bureau, évidemment, de M. Fitzgibbon. C'est silence radio. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de ce fonctionnaire-là qui a l'air d'être puni pour son militantisme? Or, les fonctionnaires ont une liberté d'expression et d'ailleurs, le Parti québécois l'avait sacré porte-parole de diversité métropole et transport. Ils ont enlevé métropole et transport parce qu'après avoir reçu un avis juridique, ils se sont dit, ben c'est vrai que ça peut être entré en contradiction ou en conflit d'intérêts avec le ministère pour lequel ils travaillent, parce que Pierre Fitzgibbon, il est ministre de la métropole aussi. Donc, là, il a gardé diversité et citoyenneté, mais quand même, il est suspendu. Il y a un avis juridique. Je sais pas ce que le syndicat pense de ça. J'ai pas réussi à le savoir, puis Geneviève non plus, mais c'est un peu bizarre comme situation. Il y en a plein là, de fonctionnaires qui militent dans les partis politiques.
Ils sont pas porte-parole de parti. Il y a quand même une nuance entre être militant actif et être porte-parole d'un parti dans un...
Ouais, il y a peut-être cette nouvelle fonction-là qui fait que, bon...
Mais c'est, comme c'est pas par rapport à son propre ministère, il y a une zone grise, là.
Mais si c'est, tu sais, diversité, citoyenneté, je vois pas le rapport avec le ministère de l'Économie et de l'Énergie. Puis lui, sa spécialité, c'est l'aéronautique. S'il était critique en matière d'aéronautique. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle patente, là, que les...
C'est comme une étape de plus.
A créé.
OK. Je cherchais le nom du président du Parti québécois, là, ça m'échappe, qui est lui aussi fonctionnaire. Puis là, je me dis, est-ce qu'il va y avoir une chasse aux fonctionnaires qui s'impliquent en politique?
Non, ils ont le droit de s'impliquer en politique. C'est légal de s'impliquer en politique.
Ben,
il y a juste
suspendu.
Une limite. Non, mais il y a une limite à... Tu sais, tu peux te présenter, tu as un sans-solde pendant la campagne électorale, tu regagnes ton poste comme cette personne-là a regagné son poste après. Tout le monde savait qu'il était contre Pierre Fitzgibbon. Le problème, c'est lorsqu'il est devenu porte-parole. C'est que tu deviens un membre actif d'un parti d'opposition en plein exercice de fonction, de la fonction publique pour critiquer le propre gouvernement
sur
lequel tu travailles.
Jadis, on siégeait à un exécutif, on pouvait même donner des entrevues à titre de membre de l'exécutif. Je vois pas exactement quelle est la différence
travail,
de nature.
Ton travail, c'est de critiquer le parti. En ce moment, comme porte-parole, le travail, c'est de critiquer le gouvernement. Il y a une différence.
Tu penses que ça pose un problème irrémédiable?
Ben, écoute, à première vue, moi ça me surprend pas qu'on ait jusque là. Après ça, qu'on ne soit pas capable d'expliquer puis de voir puis de trouver un consensus ou trouver une solution mitoyenne. Je suis sûr qu'on pourrait trouver, mais je comprends la gestion de la fonction publique de faire, il y a une limite. Il y a une limite à
les fonctionnaires
qui critiquent
moins
le propre gouvernement. Mais s'il y avait un processus transparent, ça aiderait.
Mais tu sais, on a hâte d'avoir la réponse là, de la bouche du cheval. Cheval étant le ministère, tu sais. Pas un mot.
Je voulais juste entendre Antoine 30 secondes sur Pierre Poilievre puis son idée d'examen national pour les médecins et les infirmières. J'ai pensé à toi ce matin, je me suis dit, enfin, un candidat qui te parle, Antoine.
Oui, je vais soumettre ça à mon chroniqueur constitutionnel qui doit se pencher aujourd'hui, c'est Patrick Taillon, évidemment, constitutionnaliste, sur justement la santé et le fédéralisme. Donc, tout à l'heure, j'enregistre à 15h30.
C'est ça, ta réaction?
C'est clair que
c'est... T'es pas craqué?
Mais oui, je suis craqué. Surtout que les conservateurs n'arrêtent pas de dire qu'eux, ils vont respecter la Constitution, le partage des pouvoirs.
Pas plus que les autres.
Non, évidemment.
OK, et puis on se laisse sur cette demande de commission parlementaire. Antoine, fais-toi plaisir.
Ben écoute, c'est une autre demande de commission parlementaire. Là, c'est sur les graves lacunes en français au collégial à la suite du fameux rapport des trois experts. Je sais pas si vous avez regardé ça, mais c'est catastrophique. Même les professeurs ont des problèmes en français écrit. Là. Et c'est Madoua Nika Cadet, la libérale, qui demande une commission parlementaire là-dessus. Mais on sait que ça devient une sorte de réflexe. Il n'y aurait pas moyen de faire autrement parce qu'on sait que le gouvernement trouve que s'il y a trop de commissions parlementaires, toutes sortes de mandats d'initiative, ça ralentit les travaux parlementaires parce que à ce moment-là, ça prend la place d'une commission traditionnelle. Je me demandais juste si c'est une bonne idée parce que oui, tu sais, c'est une de mes préoccupations, le français puis l'enseignement du français. Mais au moins, je veux dire, est-ce qu'on pourrait trouver le bon outil d'une certaine façon. Et je suis pas sûr que la commission parlementaire, dans ce cas-là, Dieu sait que j'aime les commissions, hein, je suis un commissionniste, mais peut-être que dans ce cas-là, il faudrait trouver autre chose.
Ça prendrait des Top Gun pour shaker.
Ah! Non, mais ça se peut-tu?
C'est ça.
Top Gun, Christian Dubé, il arrête pas aussi de dire adresser le problème. Ouais. Ça fait 5 ans là qu'il est élu, que j'arrête pas de pas dire ça.
Ouais. Mais il t'écoute pas.
Mon oncle 101 est là. Il faut écouter et intérioriser sur mon oncle 101.
C'est fait.
Intérioriser le faucon.
Merci à vous deux. On se reparle demain.
Salut les amis.